Vous écoutez, on lit pour vous.
Nouveau guide alimentaire américain, on fait un pas 25 ans en arrière. Un texte de Philippe Robitaille-Groux, publié le 11 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. Guide de spectacle, aberrant, à l'encontre du consensus scientifique, des experts ne mâchent pas leurs mots après la publication, cette semaine, des nouvelles recommandations alimentaires américaines. Si certains y voient quelques avancées, bon nombre d'entre eux s'entendent pour dire qu'il s'agit avant tout d'un grand pas en arrière. C'est mercredi que le secrétaire à la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., a jeté un pavé dans la mare. « Manger de vrais aliments », a-t-il scandé en présentant ses directives qui influenceront pour les 5 prochaines années le choix des aliments servis dans les écoles, les hôpitaux et les prisons du pays, ainsi qu'au titre des programmes d'aide fédéraux, en plus de guider la population. Dès la première page du document, une image marque un contraste clair par rapport aux recommandations précédentes et à celles du Canada. On y voit une pyramide inversée. Au sommet, trônent des dessins de côte de bœuf, de fromage, de poulet, de carton de lait. Et les grains entiers dans tout cela? Seulement au bas de la pyramide. Spectaculaire. C'est le premier mot qui vient à l'esprit de la nutritionniste Stéphanie Côté pour décrire ce guide. Spectaculaire, oui, mais pas dans le bon sens du terme. Quand j'ai vu réapparaître la pyramide alimentaire, je me suis dit qu'on faisait un pas 25 ans en arrière aux États-Unis, parce que, visuellement, on a bien compris avec le temps que ce n'est pas la forme de recommandation qui aide les gens à manger et concrètement qui les aide à savoir quoi mettre dans leur assiette, fait-elle valoir. Le document, de son avis, est vraiment un guide spectacle, plus idéologique que scientifique. En fouillant les recommandations de M. Trump et son équipe, on se rend bien compte que la science n'a pas suivi. On dirait que ça met de l'avant des idéologies personnelles plus que les années et les décennies d'évidence scientifique qu'on a accumulées. Le grand retour de la viande rouge. L'un des points de rupture majeurs avec les directives précédentes concerne les viandes rouges. Après des années de recommandations à limiter la consommation de ces aliments, les Américains sont dorénavant encouragés à en manger. Le document suggère même, pour cuisiner ou ajouter des matières grasses au repas, des options comme le beurre ou le suif de bœuf, malgré l'absence de preuves scientifiques à l'appui de ses conseils. Comme la plupart des autres experts, j'ai trouvé ça complètement aberrant de revenir à la viande rouge comme élément important dans la diète. On sait depuis plus d'une quinzaine d'années que c'est préférable de limiter notre consommation de viande rouge, déplore Martin Junot, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Un apport élevé en viande rouge est associé à une hausse importante du risque de maladies cardiovasculaires qui représente la principale cause de décès à l'échelle mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les protéines animales contiennent des acides aminés qui sont pro-inflammatoires et qui favorise le développement de l'athérosclérose. Et à cause de l'inflammation, différentes maladies chroniques apparaissent, incluant des cancers et le vieillissement cellulaire, explique M. Junot. Sans compter les effets environnementaux néfastes. On attribue à l'élevage environ 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Si on regarde les données du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, on est à l'opposé des recommandations américaines, fait valoir la nutritionniste Catherine Lefebvre en entrevue samedi à l'émission « Les faits d'abord ». Dans plusieurs guides alimentaires dans le monde, qu'on soit en Occident, en Asie ou en Afrique, on n'exclut pas la viande. Mais là, on est complètement ailleurs, renchérit-elle. Des protéines? Mais quelles protéines? Le nouveau guide alimentaire s'inscrit dans la mouvance « Make America Healthy Again ». Redonner sa santé à l'Amérique, promu par Robert F. Kennedy Jr. L'idée est notamment de valoriser la consommation de protéines. Le document recommande de consommer entre 1,2 et 1,6 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, une hausse importante par rapport aux directives antérieures. Le gouvernement américain s'attaque ainsi à un problème qui n'existe pas, de l'avis du cardiologue Martin Junot. La plupart des Nord-Américains, Canadiens inclus, consomment, vous allez être surpris peut-être, trop de protéines. 25 % des Canadiens consomme le double de ce qui est recommandé d'un point de vue de grammes par kilo. D'autant plus que les recommandations américaines n'établissent pas de distinction entre les protéines animales et végétales. On devrait faire une place plus importante aux protéines végétales dans notre alimentation. Ça, c'est super bien démontré, fait remarquer de son côté la nutritionniste Stéphanie Côté. Les protéines, en général, sont très importantes, mais c'est une combinaison d'animal et de végétal qui apporte le plus grand bienfait et la plus grande variété de nutriments parce que les protéines végétales viennent avec des fibres alimentaires, notamment, et ça manque cruellement dans l'assiette des Nord-Américains. Poursuit-elle. Assaut des aliments ultra-transformés. L'administration américaine n'a cependant pas tout faux dans ses nouvelles directives, selon des spécialistes du milieu. Parmi les passages les plus positivement accueillis, on trouve ceux qui concernent les aliments ultra-transformés que Robert F. Kennedy Jr. promet depuis des mois de combattre. Le document recommande d'éviter les aliments hautement transformés, emballés, préparés, prêts à consommer, salés ou sucrés, tels que les chips, les biscuits et les bonbons. L'Association médicale américaine a, de ce fait, salué par voie de communiqué des directives qui affirment que l'alimentation est un remède et fournissent des indications claires que patients et médecins peuvent suivre pour améliorer la santé. Ce n'est pas juste qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de gras dans les aliments ultra-transformés, mais il y a aussi des additifs qui sont néfastes pour la santé. Il y a des émulsifiants, Il y a des édulcorants qui ne sont pas très bons pour la santé, pour le microbiome notamment, précise Martin Junot. Aux États-Unis, les aliments ultra-transformés représentaient 53 % des calories consommées par les adultes d'août 2021 à 2023, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Au Canada, ils représentaient 46 % de l'apport énergétique quotidien selon les données de 2015. S'il est important de moins promouvoir des aliments riches en sucre, en sel et contenant divers additifs, Catherine Lefebvre constate néanmoins un décalage entre le discours américain et la réalité de la population. C'est bien beau, mais ce n'est pas accessible à tous, constate-t-elle. Puis on voit les données d'insécurité alimentaire, on voit les données socio-économiques, et en ce moment, ça ne va pas bien. Il faut avoir le temps de cuisiner. Il faut avoir les outils nécessaires dans sa cuisine pour pouvoir cuisiner davantage. Si on a deux emplois à temps plein pour peut-être arriver à ses fins, il ne reste plus beaucoup de temps, ajoute-t-elle. Des effets au Canada? Au fil du temps, des recommandations en matière d'alimentation chez nos voisins du Sud ont eu tendance à influencer celles au Canada. Devons-nous prévoir, dans le cas présent, des effets sur les politiques alimentaires canadiennes? Je n'ai pas l'impression, estime Stéphanie Côté, parce que le Guide alimentaire canadien, dans sa dernière version, en 2019, a complètement écarté le lobby des recommandations. Il est fondé sur les plus récentes découvertes scientifiques. Martin Junot est du même avis. Les effets qu'il entrevoit de notre côté de la frontière risquent plutôt de se manifester par l'entremise des réseaux sociaux. Il y a tout un mouvement lié au masculinisme qui encourage à manger beaucoup de protéines pour avoir des muscles, ce qui est une aberration. Si vous faites de la musculation, vous pouvez être végane et gagner des concours, martèle-t-il. Dans les réseaux sociaux, surtout les jeunes hommes, ça va les conforter dans leur croyance qu'il faut manger de la viande pour avoir des muscles et pour être un vrai homme. Mais à part cette frange-là de la population, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'impact au Canada, conclut le cardiologue. C'était « Nouveau guide alimentaire américain, on fait un pas 25 ans en arrière ». Un texte de Philippe Robitaille-Groux, publié le 11 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Tournant historique à Tokyo, en sous-titre, le Japon, laboratoire économique et géopolitique, un texte de François Brousseau, publié dans Le Devoir, édition du 9 février 2026. Pas une simple victoire, un triomphe. Sané Takaichi, première femme de l'histoire à diriger le Japon, a remporté dimanche un succès écrasant avec son vieux Parti libéral-démocrate. Le raz-de-marée du PLD, les deux tiers des sièges à lui seul, les trois quarts avec son nouvel allié du Parti de l'innovation, représente pour le Japon un renversement de tendance à mains égards. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Parti libéral-démocrate est la formation traditionnellement hégémonique du pays. Mais avant le 8 février 2026, il était en déclin, au point qu'il n'arrivait plus à conserver la majorité, même avec son allié traditionnel, un petit parti pacifiste nommé Kōmeitō. C'est une percée dans un Japon traditionnellement machiste qui, aujourd'hui, offre à une femme le pouvoir sur un plateau d'argent avec une majorité sans précédent. Dans un monde politique japonais dominé par les hommes, son image, bien étudiée de travailleuse infatigable, avec un côté cool, elle a été batteuse de musique pop, a convaincu les Japonais qui, aujourd'hui, la plébiscitent. Elle n'a cependant pas voulu insister sur cet aspect. Citation, « Je ne souhaite pas être la première femme à ce poste parce que je suis une femme, mais parce que je suis la mieux placée pour diriger le Japon. » Fin de citation, a-t-elle tenu à dire peu avant son investiture. Ce personnage énigmatique de 64 ans a dû se battre jusqu'au dernier moment, à l'intérieur de sa formation, pour décrocher en octobre et d'extrême justesse, contre les vieux barons installés, la responsabilité de diriger un parti à la dérive. Plutôt que d'étirer péniblement le mandat minoritaire obtenu en 2024, le PLD étant désormais abandonné par son vieil allié du Kōmeitō, Taikaichi a fait le pari d'aller aux élections anticipées en plein hiver. Les Japonais ont voté dimanche pendant une tempête de neige avec un taux de participation de 56% contre 53% en 2024. Véritable phénomène populaire après seulement 100 jours au pouvoir, Sané Takaichi présente la particularité, déjà vue ailleurs dans le passé, notamment au Québec, d'être considéré avec méfiance à l'intérieur de son propre parti, tout en surfant sur une immense vague de popularité dans la population en général. Son élection est aussi un virage à droite nationaliste, Mme Taikaichi se réclamant du modèle Margaret Thatcher, la dame de fer britannique des années 1980. Et un possible virage géopolitique, la nouvelle dirigeante, soutenue par Washington, revendiquant une ligne de fermeté face à la Chine. Ces dernières semaines, Pékin a essayé d'isoler la dirigeante japonaise, la traitant d'extrémiste dangereuse, citation, qui a outrepassé les normes diplomatiques. Fin de citation. Une déclaration faite en novembre selon laquelle une intervention militaire de la Chine à Taïwan constituerait une menace directe contre le Japon a suscité la colère des dirigeants chinois. Citation, s'il y a des navires de guerre et l'usage de la force, ellipse, cela pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon. Fin de citation, avait-elle dit devant la Diète, autre nom du Parlement japonais. Cette menace d'une mobilisation militaire en cas d'invasion de Taïwan a provoqué une crise aiguë avec Pékin, mais a paradoxalement renforcé la popularité de Mme Takaichi. Pékin doit maintenant bien voir que la nouvelle dirigeante, sauf catastrophe, est fermement en selle pour au moins 4 ans et que ses efforts pour la bloquer ont eu un effet boomerang. Mme Takaichi n'a pas caché ses ambitions de modifier l'article 9 de la Constitution qui garantit l'engagement pacifique du Japon, un article que son prédécesseur et mentor, Shinzo Abe, au pouvoir pendant la majeure partie des années 2010, avait cherché à changer avant elle. Le Parti libéral-démocrate disposant pour 4 ans d'une super majorité des 2/3, elle pourrait entamer une révision constitutionnelle qui remettrait en question les engagements pacifistes officiels du Japon. Le lourd passé impérialiste et violent du Japon continue de peser sur la mémoire et des pays, eux-mêmes violents et réprimant tout souvenir historique, par exemple sur un crime comme le massacre de Tiananmen, ne cesse de s'y référer. On peut rappeler que Sané Takaichi, comme Shinzo Abe, s'est rendu à plusieurs reprises au sanctuaire Yasukuni à Tokyo, lieu controversé où sont également commémorés plusieurs criminels de guerre. Ce qui suscite, malgré la criante hypocrisie des communistes chinois sur la question, des questionnements légitimes sur ce virage stratégique japonais. Autre question, probablement la plus déterminante à l'interne, sur laquelle on attend la nouvelle première ministre, l'économie. C'est un pays qui, malgré son dynamisme étonnant, résilient sur de nombreux marchés d'exportation, souffre de finances publiques en difficulté depuis des années, avec par exemple un endettement colossal du gouvernement, plus de 200% du produit intérieur brut, bien que cette dette soit presque entièrement détenue par des créanciers japonais. Un pays où la vie chère est, tout récemment, devenue un thème central sur lequel les électeurs ont voté en élisant Mme Takaichi. Il faut rappeler que le Japon, cas unique dans les grandes économies du monde, s'est signalé depuis le début du 21e siècle par une déflation constante avec une baisse continue d'environ 1% par année des prix et des salaires. Conséquence directe, le yen est passé de 88 par dollar américain en l'an 2000 à 150 par dollar en 2025. Le retour de l'inflation depuis 2 ans, pourtant souhaité en vain à l'époque de Shinzo Abe, passe donc très mal. D'où cette promesse électorale centrale de suspendre la taxe de 8% sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages face à l'inflation. Mais cette mesure a inquiété les investisseurs qui s'interrogent sur la manière dont le pays le plus endetté du monde financera ce plan. Les incertitudes japonaises qui représentent un test important pour la suite du monde. Et c'est ainsi que François Brousseau termine sa chronique qu'il a titrée « Tournant historique à Tokyo », publiée dans Le Devoir du 9 février 2026.
Génération fatiguée, mais pas trop découragée. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse. Les jeunes sont fatigués, plusieurs sont épuisés, mais ils sont aussi nombreux à chercher des moyens innovants pour vivre autrement. Le documentaire « Génération Burnout », diffusé pour la journée Belle Cause, pour la cause du mercredi 21 janvier, en a fait le point. D'abord les faits. Non, la détresse psychologique des jeunes de la génération Z, née entre 1997 et 2012, et millénial 1981 à 1996, n'est pas un mythe. Elle est documentée. Et Génération Burnout est aussi bourrée ici de statistiques, témoignages à l'appui des quatre coins du pays. Notamment, l'artiste multidisciplinaire Pony, éponge à émotions autoproclamée, une Québécoise partie refaire sa vie et lancer une boîte de surf à Tofino, un jeune père de famille de Toronto qui en a arraché dans sa vie personnelle. Plusieurs experts venus du monde de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie et même de la philosophie appuient les témoignages en question, en quête d'analyse et d'explication. Parmi ceux-ci, Mélissa Généreux, médecin, experte en santé publique, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Sans contredit, les symptômes d'anxiété et de dépression sont plus présents chez les jeunes adultes, confirme-t-elle en entrevue. Les jeunes vivent beaucoup plus de stress et nos données montrent qu'ils ne se sentent plus seuls que les générations plus âgées. Il y a une perte de sens plus présente chez les jeunes. Entre autres explications ici apportées, il sera question des effets de la pandémie, bien sûr, mais pas que. Pression de performance, sollicitations tout azimut sur les réseaux sociaux, crise du logement, coût de la vie, sans parler d'un sentiment de responsabilité globale face à la crise climatique et autres conflits mondiaux. Plusieurs jeunes disent ici se sentir submergés par tous ces stresseurs, certains uniques et critiques à leur génération ultra-connectée. un message d'encouragement. Le réalisateur Aurélien Hoffner en sait quelque chose. Âgé de 40 ans, il fait partie de cette génération-là, dit-il, une génération pour qui le monde du travail a changé, les repères aussi. L'anxiété par rapport à la planète, je l'ai vécue personnellement et j'ai fait un burn-out moi-même. Précision, dans le titre « burn-out » est ici entendu au sens populaire du terme, dépassant les limites du monde professionnel. C'est un terme un peu fourre-tout, précise-t-il, qui veut dire aussi « épuisement de vie ». Quant à lui, cet épuisement l'a motivé à faire des sacrés changements. « J'ai quitté Toronto, lancé mon entreprise The Hoffner's Production et décidé de suivre mes rêves », résume-t-il. « J'ai changé de cadre et de vie et j'ai déménagé dans l'Ouest. Depuis 10 ans, c'est de là qu'il produit des documentaires, essentiellement en français, et sur des enjeux de société variés. Mais c'est un « feel-good doc », dit le réalisateur Aurélien Hoffner. Oui, on est tous dans le même bateau, mais au bout du tunnel, il y a de la lumière. Il y a un message d'encouragement et d'espoir, et les jeunes le disent « accrochez-vous ». Parfois, avec beaucoup d'émotion, faut-il le signaler. Au bout d'un moment, l'orage passe, résume le réalisateur. À noter que non, il n'a pas été très difficile de trouver les participants pour son film. On a fait une annonce et on a reçu pas mal de réponses. Les gens sont assez ouverts à en parler désormais. Fini le temps, du moins pour ces jeunes générations, où les enjeux de santé mentale étaient tabous. On est des générations très lucides, avance aussi Aurélien Hoffner. On a vu nos parents et les générations précédentes avoir une identité liée à leur travail. Et est-ce que le monde s'en porte mieux? Nous, on questionne ce monde du travail et la place du travail dans nos vies. Entre autres pistes avancées ici ou là pour voir la vie au-delà de son écran d'ordinateur, la nature, l'art et la culture. Ce sont de beaux exemples qui sont mis de l'avant. Ils font preuve d'une belle sagesse, cohérente avec ce que dit la science, reprend Mélissa Généreux. Et je recommande à tous mes étudiants en médecine, à mes enfants et à mes proches de l'écouter, le documentaire. Pas parce que je suis dedans, mais parce que c'est très juste, conclut-elle. Oui, ils sont fatigués. Cela peut sonner négatif, concède-t-elle, mais ce sont aussi des générations en mode solution. C'était « Génération fatiguée, mais pas trop découragée », un texte de Sylvia Galipeau, paru le 19 janvier 2026 dans la presse.